إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « En ma faveur, Allah ne tient pas compte pour ma communauté de l'erreur, l'oubli et ce à quoi on les contraint. » C'est un hadith bon, rapporté par Ibn Majah, Al-Bayhaqi et autres que. Ceci est donc le 39e hadith mentionné par Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans cet épître. Et avant de commencer l'explication de ce qui est mentionné dans celui-ci, il faut tout d'abord savoir que les savants du hadith ont divergé concernant l'authenticité de ce dernier. Cependant, comme vous l'avez vu dans ce que l'on vient de lire, Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala l'a considéré comme bon. Et c'est pour cela qu'il l'a mentionné ici, d'autant plus que comme on va le voir, le sens de ce hadith est confirmé dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit dans ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, en ma faveur, c'est-à-dire afin de m'honorer. C'est une faveur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a accordée à son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne tient pas compte pour ma communauté. C'est-à-dire que sa communauté n'a pas de péché. Allah subhanahu wa ta'ala passe outre au sujet de trois choses. L'erreur, l'oubli et ce à quoi ils sont contraints. L'erreur, c'est tout ce que la personne peut faire sans viser cela. C'est-à-dire qu'elle veut faire une chose et qu'il se produit autre que ce qu'elle a voulu. Quant à l'oubli, c'est le fait que le cœur, il lui échappe une chose dont il avait connaissance. Mais au moment des faits, cette chose lui échappe et il l'oublie. Et quant à la contrainte, c'est le fait qu'une personne soit contrainte par la force, par une autre personne, de faire une chose interdite et qu'elle ne puisse pas repousser le mal de cette personne, ni l'éviter. Et ces trois excuses, elles sont mentionnées dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 286 de Surat al-Baqarah, « Rabbana » La tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Notre Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. On retrouve donc dans ce verset l'erreur et l'oubli. Il est venu dans le hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette invocation et il a dit certes je l'ai fait. Concernant la contrainte, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 106 de sourate An-Nahl. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a excusé, n'a pas tenu compte de l'acte ou de la parole de mécréance commise par la personne sous l'effet de la contrainte alors que son cœur est apaisé par la sérénité de la foi. Donc si la mécréance est excusée sous la contrainte, tout en ayant le cœur apaisé par la foi, il ne fait aucun doute que ce qui est moindre que la mécréance, comme les péchés et les désobéissances, est de la même manière excusé pour celui qui est réellement contraint. Donc, comme vous le voyez à travers ces versets, même à supposer que ce hadith soit un hadith faible, dont la chaîne de transmission n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sens est confirmé dans les versets du Coran, comme vous venez de l'entendre. On tire donc comme bénéfice de ce hadith, tout d'abord, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bienfaisance et sa bienveillance envers ses serviteurs sont immenses, de sorte qu'il ne tient pas compte de leurs péchés et de leur désobéissance si elles sont commises d'une de ces trois manières, par erreur, par oubli ou sous la contrainte. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il aurait châtié la personne quelle que soit la situation. Mais de par sa miséricorde et sa bienveillance envers nous, il ne tient pas compte de nos erreurs, il ne tient pas compte de nos oublis, ni même des péchés commis sous la contrainte lorsque ces conditions sont réunies. De même qu'on tire comme bénéfice de ce hadith la noblesse et le rang éminent occupé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré par de nombreuses choses et lui a fait grâce de nombreux bienfaits. Et parmi ceux-ci, il y a ce qui est mentionné dans ce hadith, qu'en faveur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pardonné l'erreur, l'oubli et ce à quoi nous sommes contraints. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'ensemble des interdits, que ce soit dans les adorations ou autres que les adorations, si la personne les commet par ignorance, par oubli ou sous la contrainte, alors il n'a rien à se reprocher en ce qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'a pas de péché. Cependant, le droit des serviteurs, il n'est quant à lui pas excusé. C'est-à-dire en termes de responsabilité, comme on va le voir à travers les exemples que l'on va donner. Mais cependant, le péché est pardonné. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte du péché, mais la personne doit quand même s'acquitter de sa responsabilité en ce qui concerne les droits des serviteurs. Donc l'ensemble des choses interdites, la personne n'a pas à en rendre compte si elle les a commises dans une de ces trois situations. L'erreur, l'oubli ou sous la contrainte. C'est comme s'il n'avait pas fait le péché. Aucun compte ne lui sera demandé par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ces choses-là. Et on va donc donner quelques exemples afin de clarifier cela. Par exemple, si un homme parle lors de la prière en pensant qu'il est permis de parler et que la prière n'est pas annulée par la parole, n'a pas connaissance des règles de la prière. Il vient d'entrer en islam. Alors par ignorance, par erreur, il fait ce péché sans en avoir la volonté, sans viser à faire ce péché. Et il y a à ce sujet un texte particulier rapporté quant à cela. En effet, l'imam muslim rahimahullah ta'ala a rapporté qu'un jour, Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu ta'ala anhu est entré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière. Il a alors écouté quelqu'un éternuer et louer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire dire Alhamdulillah après avoir éternué. Car celui qui éternue lors de la prière, il lui est permis de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque Muawiya radiyallahu ta'ala anhu l'a entendu, il lui a dit alors qu'il était en prière, Yarhamukallah. Alors les gens, ils l'ont tous regardé pour le blâmer. Lorsque la prière s'est terminée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé. Et Muawiya radiyallahu ta'ala anhu dit, je n'ai jamais vu un enseignant ayant une meilleure manière d'enseigner que lui. Il ne m'a pas dénigré, il ne m'a pas méprisé, il ne m'a pas frappé, mais il m'a simplement dit, certes cette prière, il n'y convient aucune parole parmi les paroles des gens, mais elle ne comprend que le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le tasbih, subhanallah, et la lecture du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné avec clémence qu'il n'était pas permis de parler dans la prière. Et ce qui est visé dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas ordonné de recommencer la prière, alors qu'il a parlé pendant la prière. Et s'il était obligatoire de recommencer la prière, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui aurait ordonné. On comprend donc que celui qui fait cette erreur par ignorance, il ne lui est pas tenu compte de celle-ci et sa prière est valide par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple, une personne est en train de prier et quelqu'un frappe à la porte de sa chambre. Et par oubli ou par réflexe, il lui dit « tu peux entrer » alors qu'il est en train de prier. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? La réponse est qu'il peut continuer de prier. S'il a fait cela par oubli, il ne lui est pas tenu compte de cela et cet oubli est pardonné. Il peut continuer sa prière et sa prière n'est pas annulée car il n'a pas fait volontairement ce péché. Un autre exemple au sujet de la contrainte. Donc on a vu un exemple concernant l'erreur, un exemple concernant l'oubli, et nous allons voir maintenant un exemple concernant la contrainte. Si une personne est forcée à manger pendant un jour de Ramadan, et qu'elle mange sous la contrainte, et qu'elle n'est pas en mesure de repousser cette contrainte, alors son jeûne n'est pas invalidé, mais il est valide, et ce car il a fait cela sous la contrainte. Cependant, il est important de souligner que la contrainte a des conditions. Et parmi ces conditions, il y a le fait que celui qui contraint un autre à faire ce péché soit capable d'exécuter ce par quoi il le menace. En effet, si la personne n'est pas capable d'exécuter cela, par exemple, un homme veut forcer un autre à manger durant le mois de Ramadan, en pleine journée, et lui dit « Si tu ne manges pas, je te frapperai, je t'enchaînerai. » Mais il est plus faible, beaucoup moins fort que l'homme qui est en train de jeûner. Et ce jeûneur, il est en mesure de repousser cette nuisance, de ne pas se laisser faire. Dans ce cas-là, il ne lui est pas permis de manger. Et la contrainte n'est pas valide, car il est en mesure de la repousser et de s'en délivrer. Mais la contrainte n'est une excuse que dans le cas où la personne n'est pas en mesure de la repousser. Un quatrième exemple, lié au jeûne également, au sujet de l'erreur. Si une personne qui jeûne a mangé avant la tombée de la nuit en pensant que le soleil s'était couché. Par exemple, il a entendu un appel à la prière et il a pensé que c'était l'appel à la prière de l'endroit où il se trouve. Par exemple, il a réglé une montre ou autre pour l'avertir de l'entrée du temps de la prière de l'Maghreb. Il pense alors que le temps est entré et qu'il peut manger. Mais après cela, il se rend compte que le soleil ne s'est pas couché. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que son jeûne est valide ou bien doit-il le rattraper? La réponse est qu'il n'a pas à le rattraper, car il a mangé ici par erreur. Et s'il savait que le soleil ne s'était pas couché, il n'aurait jamais mangé. Mais il n'a mangé qu'en pensant que le soleil s'était couché. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucune gêne. Il continue de jeûner et son jeûne est valide, Inch'Allah ta'ala. Et il y a un hadith d'ailleurs rapporté à ce sujet. Et ce hadith, il se trouve dans le recueil de hadiths authentiques de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. D'après Asma binti Abi Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma, elle rapporte qu'un jour, durant lequel le ciel était couvert, ils ont rompu leur jeûne en pensant que le soleil s'était couché. Puis ensuite, le soleil est apparu. Ils ont donc rompu avant le coucher du soleil. Et ceci était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour de jeûne. Ceci nous indique donc que cette erreur, elle est pardonnée, que le jeûne n'est pas invalidé. Car s'il aurait été invalide, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur aurait ordonné de rattraper ce jour de jeûne, car il est obligatoire pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre l'ensemble des jugements de la religion. Or ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne leur ayant pas ordonné de rattraper ce jour-là, ceci nous indique que leur jeûne était valide. Ceci concerne donc la validité de ces œuvres en cas d'oubli, d'erreur, d'ignorance ou de contrainte. Dans le cas où la personne ignore le jugement d'une chose interdite, ou qu'une personne se trompe, pense qu'il lui est permis de faire cette chose, alors qu'elle ne lui est pas permise. Elle n'a pas de péché et ses actes ne sont pas invalidés. Cependant, il faut faire la différence avec une autre situation, qui est celle de celui qui commet le péché, en sachant que c'est un péché, mais sans savoir qu'il y a une peine légale ou une expiation légiférée pour ce péché. Qu'en est-il de celui-ci? La réponse est que s'il a fait le péché, en sachant que c'est un péché, mais qu'il en ignorait la sanction, alors la sanction est tout de même appliquée sur lui à partir du moment où il a fait ce péché volontairement en pleine connaissance de cause. Et quelle est la preuve de cela? La preuve à ce sujet est le hadith de l'homme qui a eu des rapports intimes avec son épouse en journée de Ramadan. Il savait que ces rapports étaient interdits, mais il ne savait pas qu'il y avait une expiation pour ce péché. Donc, cette expiation, elle lui a quand même été ordonnée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est connu, et vous le retrouvez dans les deux recueils authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc l'ignorance de ce qui découle de l'œuvre, elle n'est pas une excuse. L'excuse, elle ne concerne que l'ignorance du jugement. C'est-à-dire que la personne ignore que cette chose est interdite. Mais si elle sait qu'elle est interdite, mais qu'elle n'a pas connaissance de ce qui en découle, alors elle est tout de même sanctionnée. Et son ignorance n'est pas une excuse dans cette situation. On a mentionné donc que ceci concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte de ses péchés. Mais en ce qui concerne le droit des créatures, alors la personne reste responsable de ses actes, même si elle n'a pas de péché. À titre d'exemple, si un homme prend un mouton en pensant que c'est le sien, il le sacrifie, puis le mange, ou le vend ou autre, alors qu'il croyait que c'était son mouton. Puis par la suite, il s'avère qu'il a pris un mouton de son voisin, par exemple. Alors dans ce cas, il est responsable et garant du droit du propriétaire du mouton. Les droits des serviteurs, il est indispensable de s'en acquitter. Bien sûr, il n'a pas de péché pour cela, car il n'a pas voulu volontairement soustraire les biens de son voisin. Il a fait cela par erreur. Cependant, cela n'empêche pas qu'il se doit de s'acquitter de ce qu'il a pris à son voisin. Un autre exemple qui concerne la contrainte. Si un homme est contraint de tuer une autre personne, un groupe de gens vient et lui disent « Soit tu tues cette personne, soit nous te tuerons. » Et il sait qu'ils peuvent le tuer. Que doit-il faire dans cette situation? La réponse est qu'il n'a pas le droit de tuer cette autre personne. Pourquoi? Car sa vie, elle n'est pas prioritaire à la vie d'autrui. Il ne peut pas dire « Je l'ai tué car sinon il me tuerait. » Car ta vie, elle ne prévaut pas sur celle des autres. Et tu n'as aucun droit de faire cela même sous la contrainte. Il est très important de faire la distinction entre cela et ce qui a été mentionné précédemment au sujet de la contrainte. La personne, elle n'est pas excusée pour porter atteinte au droit d'autrui sous prétexte de contrainte. Elle est excusée seulement pour le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il est général pour l'ensemble des interdits en ce qui concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'en est-il des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de s'en acquitter ou de les rattraper et de les mettre en pratique. Cependant, la personne n'a pas de péché si elle les a retardés suite à une excuse. Par exemple, si une personne a mangé de la viande de chameau alors qu'elle avait des ablutions, et elle ne savait pas que manger de la viande de chameau est un acte annulatif des ablutions. Elle a donc prié suite à cela. Alors il lui est obligatoire de refaire les ablutions et de refaire la prière si on lui informe et lui apprend que ceci fait partie des annulatifs des ablutions. Et ce car l'obligation, il est possible de la compenser, même avec l'ignorance. Contrairement à l'interdit, qu'il n'est pas possible de compenser. L'interdit, il a été commis, il est passé. On ne peut plus revenir en arrière. C'est pour cela qu'il est excusé. Quant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible de s'en acquitter, de le refaire à nouveau en remplissant ses conditions de la manière légiférée. Donc, celui qui a délaissé une obligation, par ignorance ou par oubli, il est obligatoire pour lui de s'en acquitter. Comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit au sujet de la prière, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, « Quiconque dort durant une prière ou l'oublie, alors qu'il la prie, dès qu'il s'en rappelle. » Donc on voit dans ce hadith qu'il est excusé pour avoir retardé la prière, à cause de son sommeil ou à cause de son oubli. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas excusé et ne lui a pas autorisé à délaisser cette prière, mais il lui a ordonné de l'accomplir dès le moment qu'il s'en rappelle. Ceci concerne donc l'oubli. En ce qui concerne l'ignorance, on peut mentionner le hadith de l'homme qui n'accomplissait pas comme il se doit sa prière et à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Pars et repris car tu n'as pas prié ». Il lui a dit cela à 3 reprises. Jusqu'à ce que cet homme dise « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire autre que cela, alors apprends-moi. » Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris les choses qu'il ignorait au sujet de la prière. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc on voit dans ce hadith que cet homme, il ignorait certaines règles de la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette ignorance, il lui a ordonné de recommencer sa prière. Cela nous prouve que l'ignorance n'est pas une excuse en ce qui concerne le délaissement ou le manquement et la défaillance dans les obligations. Pourquoi? Car l'obligation, il est possible de l'accomplir et de réparer son erreur. Donc une fois qu'il a appris ce qu'il ignorait, il rattrape cette prière, si c'est encore le temps pour la prier. Car comme vous le voyez dans le hadith, cet homme a dit qu'il ne savait pas prier autrement. Ceci nous indique que ses prières précédentes, il les accomplissait de la même manière que celle qu'il a priée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a ordonné de rattraper que la prière actuelle en dehors des prières précédentes. Donc, celui-ci qui ignorait une chose parmi les règles de la prière, parmi les règles des ablutions, il ne lui est ordonné de rattraper au moment où il apprend ces choses que la prière actuelle et non pas les prières passées. Ceci concerne donc, comme on a dit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, si cette obligation que la personne a délaissée par ignorance est également liée au droit des serviteurs, comme la zakat par exemple, si un homme, par ignorance, il ne verse pas la zakat durant plusieurs années, alors qu'il possède de l'argent imposable, mais il n'a pas connaissance des règles de la zakat. Il ne sait pas que c'est une obligation. Il ne sait pas qu'il est obligé de verser la zakat et qu'il rentre dans les conditions pour la verser. Il la délaisse donc pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui lui incombe à celui-ci? La réponse est qu'il est obligatoire de s'acquitter de sa zakat pour toutes les années passées. Car la zakat, elle n'a pas de temps déterminé. C'est-à-dire, elle n'a pas de temps qui, une fois terminée, elle n'est plus obligatoire, comme la prière. Donc même si la personne, elle l'a délaissée volontairement durant 10 années, il serait obligatoire pour elle de la verser pour toutes ces années. Donc celui-ci, qui ignorait que la zakat était obligatoire pour lui, il l'a donc délaissée par ignorance. Mais étant donné que cette adoration est liée au droit des serviteurs, et qui sont-ils ces serviteurs? Les ayants droit de la zakat, les pauvres, les nécessiteux, les autres catégories de personnes parmi les ayants droit de la zakat. Le fait de ne pas verser sa zakat durant toutes ces années, il les a privés de leurs droits. Donc s'il était ignorant, il n'a pas de péché pour ce délaissement. Cependant, il lui incombe de verser sa zakat pour les années passées afin de s'acquitter de ce droit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de ses serviteurs. On voit donc, à travers cette explication concise, que ce hadith est appuyé par de nombreux autres textes, parmi les textes du Coran et également les textes de la Sunna. Et en ayant connaissance de cela, tu vois l'importance de prendre garde quant au jugement posé sur la validité ou l'invalidité d'un acte, et qu'il est indispensable de porter ton regard sur ces trois choses mentionnées dans ce hadith, qui sont l'erreur et entre dans l'ignorance, l'oubli et la contrainte. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.